8h23. Tu me corrigeras, c'est pas John Williams qui fait la musique?
Oui, c'est John Williams.
Le même qui a fait La Guerre des Étoiles.
Le même qui a fait La Guerre des Étoiles.
C'est beau. C'est la musique du Parc Jurassique. C'est difficile de battre un orchestre symphonique.
J'avoue.
En personne, en spectacle comme ça.
Hey, c'est incroyable, c'est très impressionnant. Donc, hier, on présentait un orchestre symphonique avec ce film de Spielberg de 1993. C'était la version originale du film qui était projetée en haute définition. Et évidemment, bon, c'est ça, l'orchestre accompagnait. Il y avait 77 musiciens qui étaient sur la scène sous la direction de Evan Mitchell. On fait souvent la même chose aussi avec des films comme Harry Potter. Mm-hmm. Ça a passé ça régulièrement dans les dernières années. On le fait avec Le Parrain. On va le faire prochainement aussi avec Star Wars.
Ouais.
Moi, probablement que je vais essayer de me trouver des billets pour aller voir celui sur Star Wars. On présentait le film aussi en anglais avec des sous-titres. Et ce qui est impressionnant, c'est que si on s'attarde uniquement au film, comme à un certain moment donné, j'avais oublié qu'il y avait l'orchestre.
Ouais.
Puis là, je regardais le film, je me disais, mais il n'y a aucune différence que quand on va au cinéma. Et là, on baisse les yeux parce que l'orchestre est sous l'écran. Et là, tu vois justement les musiciens, les violonistes sortir leurs archets puis commencer à jouer. Puis là, tu dis « Wow! » Ils enregistrent comme ça. C'est comme ça que ça marche. Tu sais, dans la vraie vie, là, ça fonctionne de même. Et puis, souvent, on voit, quand on regarde les Oscars, là, ils montrent un peu des fois des coulisses d'enregistrement de trames sonores de films. Et t'as l'orchestre au grand complet. Alors, c'est vraiment agréable. Je vous le dis, si vous avez la chance d'aller voir un concert comme ça, il faut se déplacer, il faut y aller. C'est une expérience d'une vie. Et puis, je me suis toujours demandé comment ça marchait. C'est qu'il y a une bande passante sur le lutrin du chef.
OK.
Et c'est lui, évidemment, qui dirige l'orchestre parce que je me disais, mais comment ils font? Tu sais, comment ils font pour savoir quand est-ce qu'ils doivent jouer? Et là, il y a une espèce de marque qui apparaît et le chef d'orchestre suit ça. Fait qu'hier, on pouvait le voir, là, clairement, selon le lutrin. Puis c'était très drôle parce que les musiciens regardaient le film pendant qu'il n'y avait pas de musique. Ça m'a fasciné.
Ça, là, ça démocratise, je trouve, beaucoup la musique classique, première des choses. Puis ça va peut-être amener des gens qui ne sont pas des clients habituels de cette chose-là. Puis si, quand tu l'as vécu une fois, puis je le répète, là, je ne veux pas faire de la redite, mais c'est difficile d'avoir autant de puissance qui vient te chercher. Là, dans tout ce que j'ai vu de spectacle de ma vie, là, il n'y a pas grand-chose qui est venu me heurter autant qu'un orchestre symphonique qui joue ensemble.
Et hier, effectivement, c'était une clientèle populaire. Oui. C'était salle comble. On remet ça ce soir, d'ailleurs. Il y a le même concert qui est présenté ce soir. Et effectivement, tu as raison, ça donne un accès à de la musique symphonique d'une manière populaire.
Dumbo. Elle en est renversée.
Voilà, en prise de vue réelle, on va se payer la traite. On va se mettre un petit extrait de bande sonore.
Cet éléphant volant nous mènera au sommet.
Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il l'emmène?
Emmenez Dumbo à l'intérieur.
Mais c'est sa mère! Fais quelque chose!
Et Dumbo qui est tourné avec de vrais comédiens et avec des images de synthèse, parce que le petit Dumbo, lui, est en images de synthèse. On reprend le personnage de 1941, qui est un petit éléphant avec des immenses oreilles qui lui permettent de voler. Dumbo a été séparé de sa maman qui était une éléphante trop protectrice. Alors, on a dû envoyer la maman ailleurs. Et là, c'est là que l'histoire va dévier. C'est une histoire qui est assez différente que celle qui a été racontée dans les années 40. Dumbo va se retrouver dans un cirque qui va, comme une troupe de cirque, qui va se faire acheter par un immense complexe, un peu comme un Disneyland. Et le propriétaire de ce complexe est assez méchant. Donc, il veut exploiter Dumbo le plus possible. Il est joué par Michael Keaton, qui partage en partie la vedette avec Danny DeVito. Et ce film-là, ben, il est réalisé par Tim Burton.
Ouais.
Et là, je fais le lien entre Danny DeVito, Michael Keaton et Tim Burton. Ce sont des gens qui ont travaillé ensemble précédemment. On a pu les voir dans le film Batman Returns, entre autres, où Danny DeVito jouait le pingouin et Michael Keaton faisait Batman. Alors, j'ai bien aimé. C'est un film qui, par contre, est assis sur deux chaises. C'est-à-dire, pour les fans de Tim Burton, les gens qui aiment Tim Burton, on n'a pas un plein Tim Burton avec des images glauques comme on le connaît, comme on a pu voir dans Édouard aux mains d'argent, Sleepy Hollow, Beetlejuice, Charlie et la chocolaterie. Là, c'est assez sombre, les films de Tim Burton. Ici, on est un petit peu plus doux. malgré qu'on retrouve sa marque de commerce, là, il y a l'aspect cirque, fête foraine qui est là, mais on vient chercher du grotesque, des monstres. Donc, tout ça est là. Mais pour les enfants, pour les enfants qui ont 5 ans, là, tu sais, c'est le public qu'on cherche.
Ouais.
C'est peut-être un petit peu trop vieux.
OK. Pas que les enfants sont trop vieux, mais plutôt que le
film. Non, le film est trop vieux pour des enfants de 5 ans. Moi, je conseille ça pour des enfants de 8 à 10 ans. Quoi qu'il y a de très, très beaux moments, là, quand Dumbo vole, c'est magique, c'est bien rythmé. Bon, moi, je vous le dis, j'ai pleuré et j'ai 43 ans, donc j'imagine qu'il y a des enfants qui vont fondre en larmes en allant voir le film. Et je vous le recommande. C'est d'une grande, grande qualité.
Il y a un documentaire sur les coulisses de Game of Thrones?
Oui, qui s'en vient, parce que le 14 avril s'amorce la 8e saison. Je suis très, très énervée. J'ai vraiment hâte de voir cette saison finale. Et pour empêcher d'avoir un coup de cafard à la fin, on a décidé de préparer un documentaire de 2 heures qui va montrer les coulisses de cette 8e saison. Ça va s'appeler The Last Watch. Et vraiment, j'ai très hâte de voir parce qu'il paraît que les making-of de Game of Thrones sont assez spectaculaires. Qu'on montre vraiment les détails, les équipes techniques, qu'est-ce que c'est travailler dans le froid, comment travaillent les acteurs. Moi, ça me fascine. J'aime toujours les coulisses. Alors, je serai... Quoique le documentaire va passer le 26 mai pendant que je serai à Cannes.
Oh.
Mais je vais le regarder en rentrant absolument. Et puis, je serai de cette première ligne qui va regarder la 8e saison de Game of Thrones. D'ailleurs... probablement que peut-être la semaine prochaine ou l'autre d'après, je vais vous présenter une entrevue que j'ai faite avec Kit Harington lorsque j'étais au Festival du film de Toronto. On a parlé évidemment de la série. Et puis, c'est ça. C'est exclusif à nous.
Parlons de Billie Eilish. On en a fait référence, on a fait entendre tantôt un extrait. C'est pas la première fois, si vous êtes attentif, vous êtes un auditeur assidu de cette émission, que vous entendez ce nom sur nos ondes.
Oui, Billie Eilish, gros coup de cœur musical. Donc, c'est une auteure, compositrice, interprète qui est très jeune. Son premier single, Ocean Highs, est devenu viral. Il avait fait 87 millions d'écoutes en un seul mois, en 2018. Elle n'a que, je dirais 18 ans, là, 17 ans et demi. Et quand elle a composé son premier succès, elle n'avait que 13 ans. Et quand je dis un succès fou, là, 32 millions d'auditeurs mensuels sur la plateforme Spotify, elle a 15 millions d'abonnés sur Instagram, 9 millions de fans qui la suivent sur YouTube. La semaine dernière, elle avait 4 chansons dans le Billboard 100. Et vraiment, là, on dit que c'est une des personnes les plus influentes en bas de 30 ans, selon le magazine Forbes. Et cet album, il était plus qu'attendu, ça s'appelle « When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?» Et c'est de la très, très bonne musique électro. Avant qu'on se quitte, Mathieu, oui. Le seul problème que je trouve avec Billie Eilish, c'est que, c'est une jeune fille et elle est un peu gore. C'est-à-dire que, tu sais, elle est sombre, elle a des gros maquillages très, très léchés. Elle va dans les peurs des gens. Tu sais, les vidéos, c'est dans une maison hantée, ça rappelle des esprits, des araignées. Elle a peur des aiguilles, il y a plein d'aiguilles dans ses vidéos. C'est un peu lugubre.
Merci beaucoup, Catherine.
Plaisir.